podcast festival à la Gaîté Lyrique. Les débats.
Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus si nombreux et nombreuses pour assister à cette table ronde en partenariat avec Amazon Music. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée au Paris Podcast Festival, que vous avez pu assister à des échanges intéressants. On va essayer d'être à la hauteur de ce que vous avez pu écouter aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous vous emmenons dans les coulisses de l'industrie et j'espère que grâce à cet échange, vous découvrirez comment les plateformes, les hébergeurs et la radio travaillent avec les créateurs et créatrices de podcasts. C'est ce dont on va discuter avec des spécialistes du sujet. Donc à ma droite, Sarah Meffer, Senior Podcast Manager pour Amazon Music. Bonjour Sarah.
Bonjour, merci beaucoup Jeanne. Ravie que vous êtes tous là aujourd'hui. Peut-être pour m'introduire très rapidement, vous avez certainement déjà compris que je ne suis pas française, je suis allemande. J'ai travaillé pendant quelques années en Allemagne, d'abord dans des musées, après dans les médias. Et finalement, j'ai déménagé à Paris en 2016, donc il y a déjà 7 ans. J'ai rejoint Amazon Music il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi au début de l'aventure des podcasts sur Amazon Music en France. Je pilote l'activité en France, ça inclut à la fois la stratégie, les nouvelles initiatives, la curation éditoriale, la relation partenaire, globalement tout ce qui concerne le podcast. Et du coup, comme vous pouvez imaginer, c'est très riche et super intéressant.
Merci Sarah. À ta droite, Cédric de Acast. Est-ce qu'on doit encore te présenter ? Vas-y.
Bonjour tout le monde, je suis donc Cédric de Acast. Je suis directeur contenu chez Acast depuis bientôt 5 ans. Le 14 février, ça fera 5 ans. Et donc moi, je m'occupe de toute la partie discussion avec les différents éditeurs, les médias traditionnels, les studios natifs et les indépendants, pour les éclairer un petit peu sur cet univers du podcast, répondre à leurs questions, qu'elles soient édito, et puis aligner un petit peu leur stratégie édito avec la stratégie commercial afin qu'ils puissent générer des revenus, puisque Acast est donc principalement une régie qui est là pour générer des revenus aux créateurs pour qu'ils puissent continuer à créer.
Merci Cédric, on y reviendra bien sûr. Chloé Ancelin, tu as une double casquette puisque tu es la cofondatrice d'une agence de production de podcasts qui s'appelle Madame Blackbow Productions et tu es aussi à l'initiative du réseau Women and Podcast qui fêtera bientôt sa première soufflera bientôt sa première bougie.
Exactement. Donc bonjour, enchantée, Chloé Ancelin. Et donc en effet, cofondatrice du premier réseau d'influence qui valorise les femmes dans le secteur du podcast et notamment les créatrices de contenu.
Merci. Erwan Gaucher, est-ce que tu as un micro ?
Oui. J'ai un micro. Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Erwan Gaucher. Je suis directeur adjoint des antennes et de la stratégie éditoriale à Radio France. Et je m'occupe notamment avec mon camarade Thomas Biacci qui est ici, de notre stratégie sur les podcasts. Et plus généralement, je pilote éditorialement la plateforme Radio France sur laquelle vous retrouverez un peu plus de 2,5 millions de podcasts.
Merci beaucoup. Lucas, je te laisse te présenter. Tu es journaliste, mais aussi le créateur du podcast Super Green Me.
C'est ça. Bah moi, comme Cédric, j'ai une particule aussi. C'est Lucas de Super Green Me. podcast que j'ai créé, j'ai aucune idée de la date. Je sais pas. C'est en 15 juin 2000 de l'an dernier. Voilà, je sais pas quelle année on est. et la saison 2 vient de sortir, disponible sur toutes les applis de podcasts, notamment Amazon Music.
Parfait. On va revenir justement sur ton expérience, puisque lorsqu'on s'intéresse à la création indépendante, il y a un enjeu qui me semble majeur, c'est celui de la visibilité offerte aux podcasts créés. Et on va revenir sur l'expérience de Lucas, parce que je pense qu'elle pourra grandement vous intéresser. Avant, je vous propose qu'on écoute un extrait de la première saison pour celles et ceux qui peut-être seraient passés à côté de ce podcast.
Super Green Me, ma transition écologique, épisode 2.
Oh mon Dieu,
ça va maman ?
Ouais, ça va.
Je t'appelle pour t'annoncer un truc un peu spécial. Est-ce que tu te souviens du documentaire Super Size Me ? Tu sais, c'est le mec qui bouffait McDo matin, midi et soir.
Tout à fait, tout à fait.
Et ben du coup, moi, je me lance dans un nouveau podcast qui va s'appeler Super Green Me. Et au lieu de manger McDo matin, midi et soir, en fait, je vais essayer de vivre de façon très écolo.
D'accord. À partir de quand ?
À partir de maintenant.
Ah oh, putain, toi, t'aurais pu attendre les fêtes, non ?
Non, mais j'ai commencé il y a quelques temps déjà, il y a 2-3 semaines.
Et c'est chaud ?
Non, en vrai, pour l'instant, ça va.
Voilà un extrait.
Je l'ai écouté 50 fois, peut-être même plus. Et à chaque fois, elle me fait rire, mais elle ne sait pas qu'elle est diffusée partout, tout le temps. Sinon, elle ne me répondrait plus au téléphone.
Et donc, Lucas, je voulais revenir avec toi sur cette aventure Super Green Me et les différentes étapes qui t'ont permis de développer la notoriété de ce podcast et d'en augmenter l'audience et la visibilité. Est-ce que tu peux nous emmener un peu dans les coulisses, justement ?
Tout à fait. Déjà, cette table ronde est quand même très bien faite et très bien programmée parce que tous les vecteurs de visibilité sont autour de ces petites tables et sur ces canapés. C'est-à-dire qu'en fait, on a Erwan qui représente les journalistes qui peuvent faire de la curation et donc expliquer quels sont les podcasts un peu du moment, etc. Donc les faire découvrir en fait au public, notamment sur France Inter dans la matinale week-end. Sarah pour les plateformes qui est le plus gros vecteur quand même, même au-delà en fait des retombées presse, même si des fois on a l'impression que c'est super super important. Alors effectivement ça l'est, et Erwan, tu as fait une chronique sur Super Green Me qui a vraiment fait décoller les audiences pour le coup, mais c'est pour le coup pas chaque fois le cas dès qu'il y a un article ou que c'est dans la presse. Il faut un peu peut-être un peu démystifier ça pour le coup. La télé ça marche bien. France Inter, ça marche énormément. Et après le reste, bon, c'est bien, enfin parce qu'on fait des posts Insta, on est content. Notre maman, elle nous envoie un texto, elle est fière. Mais c'est vrai que c'est pas un apport énorme. En revanche, les plateformes, elles sont absolument capitales là-dedans. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je pense que je parle sous le contrôle de Cédric. 90-95% des écoutes, elles sont faites sur les plateformes en fait d'écoute. Donc c'est vraiment absolument central. Et c'est notamment le cas en fait grâce aux mises en avant des plateformes, donc dans des curations, mais qui sont faites manuellement. Sarah, que toi tu fais, que tes équipes font, donc les meilleurs podcasts de la semaine, ou un podcast qui est mis en particulier, ou quand on a la chance d'être en compétition au Paris Podcast Festival, ou de remporter le prix du public Amazon Music au Paris Podcast Festival, comme ce fut le cas l'an dernier pour Super Green Me, on est aussi mis en avant sur les plateformes. Et ça, c'est vrai que pour le coup, c'est honnêtement le plus gros vecteur d'écoute. Et d'auditeurs et d'auditrices et d'abonnés, parce qu'en fait au final c'est ça qui compte, c'est d'avoir des abonnés, parce que comme pour une chaîne YouTube, quand vous vous abonnez, les prochains épisodes vous allez les voir, ça va remonter, donc vous allez les écouter. Et Cédric aussi est là pour une bonne raison, c'est-à-dire qu'en fait Cédric via Acas fait un travail qui est absolument nécessaire pour les podcasteurs et podcastrices indépendantes, c'est qu'en fait, s'il n'est pas là pour notamment parler en fait aux plateformes et faire découvrir le podcast aux plateformes, il y a très peu de chances que ce podcast arrive, parce que des podcasts indépendants, il y en a des dizaines et des dizaines qui sortent peut-être par jour même, parfois, donc c'est compliqué de se faire une place. Donc en fait, il y a vraiment une stratégie vraiment à développer là-dessus pour que son podcast soit visible et il soit écouté, il soit reconnu. Et ça passe en fait vraiment, je pense, au tout début, par le travail de Cédric et d'Acast, qui, dans le cas de Super Green Me, a été fondamental. C'est-à-dire que sans vous, nous, on ne connaissait pas en fait les plateformes. Je connaissais un petit peu Sarah d'avant, dans mon métier d'avant. Mais en revanche, pour les autres plateformes, et en général, si je ne parle pas que pour mon cas perso, j'imagine que vous ne connaissez pas personnellement Sarah, ni les personnes des autres plateformes. Cédric, oui, les connaît. Et donc, il y a un intérêt en fait d'aller voir. C'est tout pour toi. C'est tout pour toi, c'est cadeau. Donc voilà ce que je peux dire pour la visibilité. Donc en fait, nous, on est allé voir avec Mathilde Mélin, qui a coproduit la saison 1. On est d'abord en fait allé voir Cédric pour choper effectivement des conseils édito aussi, parce que c'est important. Quand on se lance là-dedans, au-delà de la visibilité, c'est beau d'être mis en lumière, mais si on fait n'importe quoi, ça ne sert pas à grand-chose. Et les plateformes ne voudront pas vous mettre en avant parce que vous ne respectez pas certaines choses essentielles. Donc pour que ça soit la récurrence, la fréquence des épisodes, la durée, etc. Et une fois qu'on cadre l'édito, on cadre aussi les stratégies de visibilité. Et j'ai fait très long.
Et donc d'un point de vue temporalité, vous avez réfléchi à cette idée avec Mathilde. Combien de temps après est-ce que tu es allé toquer à la porte de Acast ?
J'ai toqué une première fois de façon beaucoup trop prématurée, en disant « Ah, j'ai une idée de podcast, c'est incroyable !» Et en fait, c'est très long à développer une idée de podcast. Donc, je suis revenu beaucoup plus tard, après. Je me suis dit, en fait, j'ai réfléchi au podcast. Déjà, j'ai trouvé un titre, ça va faire ça, machin. Donc, mais il faut quand même le faire en amont. Et c'est, en vrai, c'est ultra frustrant. Parce que, évidemment, quand vous avez l'idée d'un podcast, c'est le meilleur podcast du monde. Personne n'a jamais eu cette idée, c'est fou. Vous êtes le meilleur. Mais il faut se calmer. Déjà, c'est pas le meilleur podcast du monde, déjà. On redescend un petit coup. Et ensuite, il faut avoir la tête froide, il faut se dire, OK, le principal dans un podcast, et ça, c'est notamment Cédric qui me l'a dit, c'est la continuité. Il faut pouvoir sortir à la même fréquence des épisodes et tenir sur la longueur. Parce qu'en fait, si vous avez une super idée, vous êtes super enthousiaste, vous y allez, vous publiez le premier épisode, et vous dites, allez, je vais en refaire un toutes les semaines. Le deuxième, et après, ouais, mais putain, parce qu'en fait, moi, j'ai du taf aussi à côté, c'est compliqué. Donc là, le troisième, il sort avec un peu de retard, et au final, le quatrième ne sort jamais. Donc il faut ronger son frein, il faut faire, à mon avis, beaucoup d'épisodes d'avance. Nous, la saison 1 de Super Grenemy, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'on avait 8 ou 9 épisodes d'avance, 10 épisodes d'avance sur 22, donc c'est quand même considérable. Et encore, c'est moi qui ai forcé pour qu'on la sorte, parce que j'en pouvais plus. Vraiment, il fallait que les gens écoutent, c'était insupportable. Mais techniquement, j'aurais même dû attendre encore plus longtemps. Donc déjà faire ça, déjà faire du stock, mais ce stock, il faut le travailler avec Cédric, voir un petit peu en termes de format ce qui va marcher. Je te dis, non, mais tu prends tout, c'est voilà. Tu es le meilleur, tu as tout fait, ça c'est toi. C'est ta tête, c'est incroyable. Non, mais c'est vrai, je dis pas ça pour te flatter, c'est vrai. Et il n'y a pas que toi, il y a aussi Roman d'Acast aussi, qui a tous des particules chez Acast. Et donc voilà, on travaille ça, mais ça se fait en amont, ça se fait plusieurs mois avant. Et une fois qu'on a des premiers épisodes, qu'on peut les faire écouter, là, Acast, l'hébergeur, pas que Cédric, Boulard, va pouvoir le présenter aux plateformes, en parler. Et après, rien ne vous empêche aussi de contacter, d'envoyer un mail à Sarah, par exemple. Nous, c'est ce qu'on a fait pour lui annoncer le podcast.
On va revenir sur le rôle de Sarah, mais avant, justement, Cédric, Lucas en a parlé, mais j'aimerais avoir ton regard en tant qu'hébergeur de podcast, parce que vous accompagnez les podcasteurs et les podcastrices dès le départ. Et ça, on n'a pas forcément cette idée-là quand on veut lancer son podcast.
Alors, tout à fait. Ça peut être dès le départ, ça peut être aussi en cours de route. Donc effectivement, Acast, pour la petite histoire, c'est une boîte. Je pense que c'est une boîte qui a quasiment 10 ans maintenant. On est fondé en 2014, boîte suédoise qui est présente dans 15 pays. Je vous fais la présentation assez rapide, qui représente 430 millions d'écoutes par mois aujourd'hui, qui a reversé 250 millions de dollars aux créateurs et créatrices de podcasts depuis sa création. Car, il faut le rappeler, effectivement, la première raison d'Acast, c'est la monétisation des podcasteurs et donc la génération de revenus pour leur travail. Parce que on est tous très philanthropes dans l'esprit, mais on a aussi besoin, mais moins les gens qui reçoivent nos loyers chaque mois. On héberge désormais plus de 100 000 podcasts. Et ce 60%, effectivement, ça représente 60% du top 10 ACPM. Donc, on travaille effectivement avec les créateurs à la sortie de podcast, mais aussi des créateurs au long cours. Souvent, effectivement, pour les aider, comme je disais, à éclaircir un petit peu qu'est-ce que vous avez comme idée, qu'est-ce que ça comble, entre guillemets, comme trou dans l'offre éditoriale du podcast, qui est certes dense, mais qui est encore très loin d'être complète. Comment est-ce qu'il faut le sortir ? Donc, effectivement, ramener cette idée de régularité. Le podcast, il faut un peu l'imaginer comme un magazine avec des choses à raconter, avec une thématique qui va permettre de pouvoir aborder plusieurs angles, de revenir régulièrement sur le devant de la scène avec des nouveaux épisodes qui ne perdent jamais en fraîcheur. Et cette notion de régularité, elle est super importante. Et en fait, c'est un peu celle qui fait les contenus sur le web depuis une vingtaine d'années. Il faut repartir aussi souvent de ce qu'on aime, de ce qu'on consomme pour réappliquer un petit peu ça aux médias qu'on a envie de créer de la façon qu'on l'aime et qu'on a envie qu'il soit consommé.
T'as une autre slide.
Oui, c'est vrai. Et du coup, effectivement, pour finir, un petit peu de présenter Acast, ce qu'on fait, donc, c'est que la première mission, c'est la monétisation. Et pour cette monétisation, Acast a créé en 2014 l'insertion dynamique publicitaire qui permet de mettre des publicités dans les podcasts et ne plus avoir les pubs en dur dans le fichier audio. C'est devenu une norme globale. Puis Acast, pour mieux distribuer cette publicité, est devenu hébergeur de podcasts et distributeur. Donc toute cette partie technique ultra nécessaire quand on est un podcasteur, parce que créer son propre fil RSS et s'héberger, c'est une autre aventure. Ce qui va avec toute la partie statistique, donc des statistiques qui sont certifiées par l'IAB, qui est la norme globale de mesure des écoutes de podcasts, des auditeurs uniques, des impressions publicitaires. Et puis, une fois qu'il y avait tout ça, Acast s'est dit, bon, ce serait bien d'avoir aussi des gens qui sont un petit peu calés en contenu pour accompagner les créateurs, pour les aider à se développer et pas juste les lâcher comme ça dans le marché publicitaire. Donc l'équipe contenu d'Acast a été créée, dont je fais partie. Il y en a une donc, dans chaque pays, dont le taf, c'est littéralement de rendre des Lucas Caltritti et plein d'autres créateurs et créatrices très contents et très visibles, et puis d'essayer de leur amener le maximum de sous aussi.
C'est assez important, en effet. On y reviendra justement sur la monétisation et sur les leviers que Acast et Amazon Music proposent pour les créateurs et créatrices de podcasts. Alors, Sarah, vous intervenez dans un second temps avec Amazon Music, puisque vous êtes une plateforme de diffusion. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le fonctionnement, pour pas que ce soit trop flou? Et ensuite, comment est-ce que vous offrez de la visibilité aux créateurs et créatrices?
Donc, pour reprendre un peu les bases, similaire à ce que Cédric a fait, donc Amazon Music est une service de streaming musical à la base. On a lancé des podcasts dans certains pays en 2020 et en France en avril 2021 sur ces services. Et donc, notre rôle, c'est vraiment de distribuer et proposer les meilleurs contenus à nos auditeurs. Les podcasts en font partie. Les podcasts sont disponible sur Amazon Music et mis en avant sur Amazon Music dès la page d'accueil. Vous voyez quelques exemples de la page d'accueil d'Amazon Music sur la slide derrière moi. On propose à la fois une sélection éditoriale, donc c'est une curation éditoriale par moi avec mon équipe, mais on propose aussi d'autres contenus qui sont souvent basés sur l'historique d'écoute des utilisateurs pour justement bien coller à ce qu'ils pourraient aimer. Donc ça, c'est un peu la base et on peut aussi aller au-delà. Donc quand j'ai dit on fait des mises en avant éditoriales, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc chaque semaine, avec l'équipe, on sélectionne à peu près 50 podcasts. Parfois c'est 45, parfois c'est 70, ça dépend un peu la saisonnalité. Qu'on écoute du coup et on recommande aux auditeurs. Donc 50 podcasts, ça fait quand même beaucoup. Ça laisse beaucoup de la place pour tout type de production, pour les podcasts replay, pour les podcasts qui sont produits pour des médias, des studios, mais aussi beaucoup des podcasts qui sont réalisés par les créateurs et créatrices indépendantes. Donc comment ça fonctionne concrètement? Donc on a des collections, c'est comme des playlists des podcasts, qu'on met en avant à la fois sur la page d'accueil, mais aussi sur la page podcast. On a, par exemple, chaque semaine, une sélection de la semaine. C'est les sorties de la semaine qu'on a remarquées, les podcasts qui sortent des épisodes forts sur des thématiques inédites ou alors avec des invités exceptionnels. Et parfois, parce qu'on ne connaît pas non plus tous les podcasts qui existent en France, c'est aussi justement des podcasts qu'on vient de découvrir, parce que c'est par exemple les créateurs ou l'équipe d'Acast qui nous a recommandé d'écouter un podcast spécifique et peut-être le considérer pour une mise en avant. Donc pour tout ça, on est en échange très régulièrement avec toute l'industrie, les hébergeurs, les créateurs en direct, les équipes des médias comme Radio France qui nous signale de temps en temps les souhaits de mise en avant, mais aussi parfois nous on les découvre par nos intérêts à nous. Donc on a des possibilités de mise en avant sur Amazon Music aussi, bien au-delà de ça, parce qu'on a vraiment de la chance de faire découvrir les podcasts du coup. Dans notre univers qui est propre à l'écoute, mais aussi au-delà de ça, avec l'entreprise Amazon. Donc si tu veux passer sur la prochaine slide. Donc, on peut aussi proposer à des créateurs et créatrices des mises en avant sur Amazon Music, justement pour augmenter la visibilité auprès des publics qui sont peut-être un peu moins familiers avec ces médias. On a aussi de la chance d'avoir des mises en avant plutôt ponctuelles sur Alexa en France. Donc, sur cet exemple, vous voyez par exemple la créatrice indépendante Claire Bitou qui produit le podcast Bye Bye Procrastination. Et on lui a proposé pour, je crois que c'était en janvier de cette année, d'interagir avec Alexa pour recommander aux utilisateurs ses conseils pour bien démarrer l'année avec une organisation au top. Et donc, enfin, de temps en temps, et c'est encore plus sur mes yeux, on propose aux créateurs et aux créatrices des campagnes d'affichage. On en avait une jusqu'à hier pour la sélection officielle du Paris Podcast Festival dont on était partenaire. Donc, il y a quand même beaucoup de podcasts, des créateurs et créatrices indépendantes qu'on a pu mettre en avant, dans cette campagne. Mais on essaie vraiment de les inclure dans une saisonnalité avec des qui collent à des événements culturels pour justement faire connaître le podcast à des personnes qui les connaissent peut-être pas encore.
Et si je peux me permettre, ça fait effectivement plaisir en fait aux podcasteurs et aux podcastrices quand on est mis en avant, mais ça compte en fait vraiment beaucoup pour les écoutes. Et en fait, on le voit, c'est-à-dire que quand Amazon Music nous met en bandeau parce qu'on est recommandé sur la semaine, en fait, tous les gens qui vont cliquer sur l'application Amazon Music en fait, vont le voir en fait, immédiatement, parce qu'en plus, Amazon Music est très bien fait, il y a un onglet podcast, et le podcast est mélangé sur la homepage, pas comme sur toutes les applications de streaming. Et donc ça, c'est quand même bien. Et donc vraiment, en termes d'écoute, on le voit vraiment, et en fait, quand on est dans le back-office à Cast, on voit que la courbe monte parce qu'on a été mis en avant.
Et ce que tu viens de dire, Sarah, ça rejoint aussi ce qui a été soulevé ce matin, d'aller toucher un autre public qui n'écoute pas encore des podcasts. Donc effectivement, quand on se promène dans Gare du Nord et qu'on a un affichage tel que celui-ci, on peut imaginer que ça donne envie d'aller écouter le contenu. Tu avais une dernière slide.
Oui, en gros, pour alimenter tous ces programmes, toutes ces mises en avant, comme je disais, on est très souvent en contact avec les créateurs et créatrices. Donc, c'est très bien que vous preniez des photos. Et donc, n'hésitez pas à nous écrire. On est ravis d'échanger avec vous autour de peut-être votre projet, un peu comme Cédric l'a fait. Mais aussi, si vous avez juste envie qu'on écoute votre podcast ou vos derniers épisodes et on les considère pour des mises en avant, ça serait avec grand plaisir.
Prenez bien en photo cette slide, n'oubliez pas. Alors là, on est beaucoup resté dans l'écosystème du podcast. Pourtant, pour pérenniser l'activité des créateurs et créatrices, il me semble indispensable d'imaginer des passerelles avec d'autres secteurs, tels que celui de la radio Erwan. Et c'est ce que vous faites de plus en plus, puisque vous produisez des podcasts avec des créateurs et des créatrices indépendants. Est-ce que tu peux nous expliquer les différentes formes que peuvent prendre ces collaborations ?
Alors nous, on est un peu à Radio France de tous les côtés de la table, à part peut-être la monétisation, parce que évidemment, on produit déjà beaucoup de podcasts. On est de façon un peu invisible, je pense que peu le savent, mais on est déjà évidemment complètement impliqué dans ce soutien aux créateurs. Chaque année, Radio France commande 1000 heures de podcasts documentaires ou fiction à des créateurs. Alors, on les appelle des producteurs, nous, parce qu'on est bien plus anciens que le podcast en tant que tel, mais c'est 1000 heures, c'est vraiment pas rien. 1000 heures chaque année, on est le premier employeur de comédiens en France. Donc on est déjà là, et j'allais dire, tant mieux si on peut aider tout cet écosystème à tenir le temps qu'ils aient eux-mêmes leur propre idée de podcast, le temps qu'ils viennent rejoindre. J'écoutais cette semaine encore altérée une comédienne qui va rejoindre un podcast indépendant. C'est super, c'est notre boulot, on est le service public, on peut nous être là sur la longueur, donc tant mieux. Et je disais, on a un peu toutes les casquettes parce que on produit tellement nous avec la radio, mais aussi avec les podcasts, qu'on se crée nous-mêmes les problèmes que les podcasteurs rencontrent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va créer un podcast, quand on va lancer Ça dit quoi, par exemple, un nouveau podcast de la rentrée, eh ben on est obligé de se poser nous-mêmes la question, mais comment on va le faire exister sur l'application Radio France, dans laquelle il y a 200 nouveaux podcasts toutes les semaines qui arrivent. Donc en fait, moi je suis avec Thomas autour de la table pour se dire, tiens, on va lancer tel nouveau projet, on va faire ça. Et puis ensuite, je passe de l'autre côté de la table et je suis celui qui dit, ouais, mais alors attends, parce que quand est-ce que je te le mets en avant, moi j'en ai déjà plein, je vais pas enlever un affaire sensible parce que ça marche très bien, mais en même temps j'ai besoin de te faire découvrir. Et puis on ajoute des couches parce qu'on a envie de continuer, parce qu'on aime bien se compliquer la vie. On va aussi essayer de recommander, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Lucas, des podcasts qu'on a entendus ailleurs, et on a une rubrique sur l'application Radio France qui ne fait que ça. On ne propose que des podcasts que nous ne produisons pas nous, et on propose aux créateurs de les mettre à disposition. C'est le flux RSS, on prend exactement, on touche évidemment à rien, et on se dit que nous, on a en gros 10 millions d'utilisateurs de la plateforme Radio France, site et application, et que avec un peu de chance, il y en a certains qui vont venir découvrir et qui vont se permettre d'aller écouter autre chose. Et on se dit que nous, ça fait aussi partie de notre boulot. Mais on continue, parce qu'on sait bien aussi que tout le monde ne sait pas où taper à la porte de cette grande maison ronde, qui est très grande et très ronde, et qu'on connaît pas tous quelqu'un à Radio France, qu'il n'y a pas, une entrée pour les gens qui ont des projets. On en reçoit à ne plus quoi savoir en faire. On n'arrive pas à tout lire, mais c'est pas grave, on continue. On a notamment lancé l'année dernière une opération qui s'appelle Podcasting, super original sur le titre, hein, mais qui nous a permis de dire... Venez, vous n'avez encore jamais fait de podcast avec nous, vous n'avez encore jamais travaillé, venez nous proposer. On a reçu 800 projets, on ne demandait pas de maquette, on demandait simplement d'avoir au moins un petit quelque chose à écouter, même si c'était qu'une note sonore, avec une double volonté. Trouver des projets auxquels nous, on n'avait pas pensé, parce qu'on a beau être nombreux, on a beau en faire beaucoup, il y a plein de choses auxquelles on n'a pas pensé, et notamment plusieurs de ceux qui ont été lauréats, on n'y avait pas du tout pensé. Et on en a sélectionné, 18, qui sont venus pitcher devant des représentants des chaînes de Radio France, et on a essayé de trouver les plus sympas. Mais on en fait encore beaucoup, c'est-à-dire que il y a ça, il va y avoir un podcasting 2 qui sera très bientôt annoncé. Allez-y, c'est le moment. Si vous avez des idées, j'allais dire, on cherche des idées, on cherche des porteurs. Il y a des gens qu'on a vus, on s'est dit, honnêtement, je suis pas tombé de ma chaise sur le projet. Par contre, cette personne, elle dégage un truc quand elle vient m'expliquer son projet. Je vois qu'on va pouvoir imaginer quelque chose derrière le micro avec elle. Est-ce que ça sera à la radio? Est-ce que ce sera en podcast? En fait, nous, on a arrêté de faire la différence entre la radio et le podcast. On a complètement hybridé. Quand Philippe Collin, qui sera demain ici pour discuter avec vous, et je vous conseille d'aller suivre parce que Philippe est un type d'une encyclopédie de l'audio absolument formidable. Je rappelle pour les plus boomers comme moi que c'est celui qui faisait Panico Mange un Palace, et quand on veut entendre de la belle création audio, Panico Mange un Palace, c'est absolument génial. Une ancienne émission d'Inter qui sortira en podcast aujourd'hui, on dirait... C'est génial, il a inventé quelque chose. Donc, allez écouter. Mais quand Philippe vient et quand Philippe nous dit « J'ai une idée de podcast, on va partir sur Léon Blum et ça va faire 9 heures de documentaire. » Ouais. 9 heures sur Léon Blum, t'es sûr? Oui, parce qu'après, on va faire 8 heures sur Philippe Pétain. Ok. Eh bien, il a raison. Il a raison. Et on a travaillé d'entrée de jeu pour que ça soit hybridé. On ne s'est pas dit « Tu vas faire de la radio et on l'écoutera en podcast triplé. » On s'est dit, on va en faire un podcast, et en fait, tu vas faire la forme que tu veux, tant qu'à la fin, on arrive à remodeler ça pour que ça puisse aussi passer à la radio, parce qu'en fait, je pense que si c'est un bon podcast, ça va faire de la bonne radio, et si c'est de la bonne radio, avec un tout petit peu de côté un peu pérenne dans ce qu'on dit, ça fera un podcast tout à fait intéressant. Donc on réfléchit plus en deux, on fait vraiment maintenant des podcasts. Il n'y a que les podcasts jeunesse, et ça va me permettre de faire le dernier point, il n'y a que les podcasts jeunesse qu'on ne passe pas à la radio. Et des podcasts jeunesse, c'est intéressant parce que c'était des gens qui travaillaient, il y a deux personnes notamment, je pense à Laure Grand Besançon et à Léonard Billot. Léonard Billot, il était ce qu'on appelle attaché de production dans l'émission d'Augustin Trapenard. Parce qu'il était, il aidait Augustin à booker les invités, à préparer des interviews. Puis un jour, il est venu, j'ai une petite idée, un podcast, ça s'appelle Oli, ça fait 45 millions d'écoutes depuis qu'on l'a lancé. Laure Grand Besançon, c'est pareil, ça s'appelle Les Odyssées. On n'a même plus le temps de produire tellement on a d'idées. Il y a eu Les Odyssées du Lourd, là il y a une série spéciale pour Halloween qui s'appelle Frisson, qu'on va sortir, on a déjà d'autres idées pour la suite. C'est pareil, ça a fait 30 millions d'écoutes. C'était pas des gens de radio, ils n'avaient jamais produit une émission de radio avant. Mais ils sont venus taper à la porte et ils ont eu une idée géniale et on a un peu de savoir-faire sur l'audio dans la maison, donc on a su accompagner. Et nous aussi, on a cette problématique-là. Comment on met en avant? On fait environ 150 mises en avant par semaine sur l'application Radio France, par exemple, avec une volonté, pour le coup, c'est qu'on essaye de ne pas mettre en avant que ce qui marche, parce que si ça marche, en fait, ça n'a plus besoin beaucoup d'être en avant. Je veux dire, quand on voit les audiences d'un affaire sensible, que je le mette en avant ne change plus grand-chose. Les gens le connaissent, ils vont aller le trouver. En revanche, on va essayer de créer des parcours d'écoute éditorialisés. Et cette semaine, elle est intéressante parce que je trouve que là, on est vraiment dans quelque chose d'essentiel, dont c'est notre boulot de service public de le faire. Cette semaine, notre question, toute la semaine, depuis le week-end dernier, c'est... Qu'est-ce qu'on a comme podcast dans notre catalogue, qui est immense, qu'on n'arrive même pas à exploiter tellement il y en a, mais qu'est-ce qu'on a qui est capable d'expliquer de façon pertinente, non répétitive, pour que les différents podcasts se complètent les uns les autres, ce qui est en train de se passer en Israël et dans la bande de Gaza. Et quand on plonge là-dedans,
et qu'on se fait un parcours et qu'on se dit, voilà, là, on va vous proposer une sélection qu'on appelle 70 ans de conflit, et on va essayer avec vous de vous emmener pour, non pas pour comprendre parce qu'on sait, mais parce qu'il se trouve qu'on a plein de gens qui ont dit des choses intéressantes dans nos podcasts et qu'on pense que ça peut être intéressant, ça peut faire un parcours qui soit un peu enrichissant, et surtout pas pour le coup en cherchant à ne mettre en avant que ce qui marche le mieux. Moi, je dis souvent, quand on parle avec les équipes de développeurs, que le bouton dont je rêve dans l'application Radio France, c'est le bouton surprenez-moi, c'est-à-dire que ça me sorte quelque chose que je n'ai surtout jamais écouté. Ce que j'aime, je le trouverai. À la limite, leur boulot, c'est de faire que l'appli elle soit bien foutue et qu'on trouve vite ce qu'on connaît. Mais ce qui est le plus sympa, c'est d'aller m'étonner, c'est d'aller me trouver quelque chose, c'est d'aller faire que quand je tape environnement, bien sûr, je tombe sur la Terre au carré, mais je tombe aussi sur la première saison de Super Green Me dont on a mis des épisodes parce qu'on trouve que c'est vachement sympa. On en revient toujours à toi.
Mais c'est vrai que peut-être très rapidement pour rebondir dessus, ce qui est super intéressant depuis 4-5 ans sur l'écosystème, c'est la façon dont tous les différents acteurs qui sont ici autour de cette table, petit à petit, coulissent ensemble. C'est-à-dire que finalement, l'idée de tout le monde ici, c'est de favoriser la découverte, c'est de favoriser la création. Et effectivement, il n'y a pas forcément un parcours, comme tu le disais très justement, la meilleure idée de podcast, elle vient pas tout le temps de quelqu'un qui a fait plein de podcasts avant, mais de quelqu'un qui a une attitude, une idée, quelque chose qu'on sent, que Sarah va pas forcément voir parce qu'il y a pas encore de podcast à écouter, que des structures comme les nôtres vont pouvoir voir un peu plus tôt à partir de la production et pouvoir pousser. Mais voilà, je pense que tous autour de la table, ici, on est sur une démarche d'évangélisation et de découverte du podcast, et c'est pas chacun de son côté in fine tout ce qui se met en place, c'est que tout ça se complète pour arriver à quelque chose de solide et le futur du podcast.
Tu fais une transition parfaite avec le sujet que je voulais aborder ensuite, qui est celui du collectif et de comment on travaille toutes et tous ensemble. C'est un véritable sujet. Alors, Erwan, tu le disais, on ne connaît pas tous quelqu'un chez Radio France. On n'a pas tous des portes d'entrée. Et Chloé, justement, avec Women and Podcast, vous essayez depuis un an de fédérer les femmes qui travaillent dans ce secteur de la création audio.
On parlait de collectif tout à l'heure et de tous participer à la création. C'est vraiment en fait l'ambition qu'on a eue avec Céline et Mélanie quand on a cofondé l'association, parce que c'est une association. Women and Podcast, l'idée, c'était véritablement, on avait trois ambitions. On avait une ambition, évidemment, de créer des connexions, des synergies pour pouvoir échanger, pour pouvoir justement se rencontrer. On avait une ambition également de nourrir en fait ce réseau, c'est-à-dire d'apporter du contenu, de pouvoir en tout cas élargir aussi le spectre. Tu disais tout à l'heure d'échanger avec quelqu'un d'ACAS, ça t'a permis de te remettre en question, de challenger sur ton projet. L'idée aussi d'avoir aussi une vision peut-être 360 aussi pour les créatrices qui se lancent, de se dire c'est quoi aussi, comment je monétise, comment j'amplifie, qu'est-ce que ça veut dire derrière en fait de produire. Donc d'apporter du contenu. Et puis le troisième ambition, c'était la visibilité, parce que en fait, il y a beaucoup de créatrices qui se lancent dans le podcast, mais qui n'ont pas forcément et confiance et les connexions pour pouvoir se donner de la visibilité. Là aujourd'hui, on va fêter nos un an dans 15 jours à peu près, enfin dans un mois, voilà. Donc on est encore très humble, parce qu'il y a encore plein de choses à faire. Par contre, on est assez fiers de dire qu'il y a 437 membres qui nous ont rejoints, avec une partie sur la partie boost et une partie sur la partie pro, puisqu'on a deux branches, une branche pour les pros et une branche pour les boosts, donc ce sont les créatrices qui se lancent. On a la chance aussi d'avoir des sponsors, comme évidemment Amazon Music, ici présent, mais aussi on a Target Spot, Ocha, ACPM qui nous suivent sur ce projet. Et puis après, qu'est-ce qu'on propose ? On propose en fait des ateliers, des rencontres, des webinars, des soirées, pour se connecter. Et ce qui est assez sympa en fait, parce que si on doit faire un bilan là depuis un an, c'est qu'on voit en fait des choses se créer. On voit des gens qui trouvent des jobs dans ces soirées, qui se rencontrent. Des créatrices qui rencontrent des productrices. On voit des créatrices aussi qui définissent d'autres sujets de podcast après avoir échangé avec des journalistes ou avec des gens du secteur. Donc voilà, c'est une petite effervescence qui des gens aussi qui viennent un peu de partout, parce qu'on a des gens qui viennent de Bordeaux, de Marseille, de Lyon, d'Annecy. et donc c'est sympa de voir, même on a quelqu'un qui nous a rejoint, qui va faire les coups de cœur de notre newsletter, qui vient de Denver, aux États-Unis. Donc c'est assez sympa de voir toute cette effervescence et voilà, de tout ce collectif qui se nourrit en fait et qui fait grandir le réseau. Donc voilà, bah, on est content et puis on a hâte de on teste and learn, hein, c'est le début, hein, donc, mais on a hâte que tout ça grandisse.
Peut-être pour ajouter un petit mot, je crois que c'était justement au Paris Podcast Festival qu'on a échangé avec Chloé et l'équipe Women in Podcast sur comment on peut travailler ensemble. Et du coup, pour nous, Amazon Music, c'était vraiment un approche qui nous appelait beaucoup dès les débuts. Et justement, du coup, on a eu la possibilité de co-créer l'initiative Women in Podcast Boost ensemble, qui est la branche dédiée à la création indépendante. Voilà, donc juste ça, que c'est aussi ces moments comme aujourd'hui où il y a des ponts qui peuvent se créer. Et voilà, donc.
Oui, on travaille vraiment en collaboration ensemble. Et c'est vrai que c'est sympa d'avoir une intelligence collective, c'est-à-dire de réfléchir ensemble, à pas juste penser à son propre contenu, son propre podcast, et aussi de faire vivre l'ensemble du collectif. Et puis de voir aussi que plein de choses se créent. Hein, on a passé la journée à échanger avec des gens de Marseille qui ont envie de faire des choses avec nous, parce qu'il y a plein de choses qui se passent aussi à Bordeaux. Enfin voilà, il y a plein de choses qui évoluent. Et donc je trouve ça cool, en tout cas, de voir que tout ça évolue dans le bon sens.
Lucas, est-ce que toi, tu t'es senti un peu isolé pendant la période de création, justement, parce que là, on parle de la force du collectif, mais on le sait, les podcasteurs et les podcasteuses sont souvent assez isolés, finalement, et assez seuls face à leur projet.
Moi, Super Grimmy est passé à ça de jamais voir le jour, très, très, très concrètement, parce qu'en fait, j'ai voulu le lancer vraiment tout seul, absolument tout seul. Mais donc, du coup, pendant qu'en fait, je travaillais à côté, évidemment, et c'est pas possible. Donc j'étais, enfin là pour le coup j'étais très 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 isolé. Et donc le premier réflexe a été d'aller voir Mathilde qui m'a déjà aidé. Donc là déjà ce binôme m'a aidé juste à me dire ok bon en fait on va pouvoir le sortir. Et ensuite effectivement c'était pas encore nécessaire, suffisant. Il fallait effectivement aller voir hébergeur, plateforme, et c'est pour le coup très très important parce que, et vous le disiez, il faut avoir en fait d'autres oreilles sur son projet. C'est-à-dire que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, on a l'impression que c'est une idée incroyable, qu'on est les meilleurs, qu'on est les plus forts. Et en même temps, on n'a pas le recul suffisant. Et on ne connaît pas forcément non plus suffisamment le milieu. Sur la durée, sur comment faire, à quelle période le sortir. Nous, par exemple, on avait envisagé une sortie l'an dernier, un petit peu avant. Mais en fait, Cédric, justement, nous avait dit, mais non, attention, il y a les législatives, contexte politique, et donc l'écologie, même s'il n'y a pas une... Il n'y a aucune prise de position véritablement politique au sens de parti dans Super Green Me, mais il peut y avoir confusion. Justement, les plateformes ne vont peut-être pas non plus le mettre en avant, etc. Donc c'est vraiment très, très, très important d'être dans un collectif et de partager, de parler de son projet. Je pense que c'est vraiment essentiel pour sa santé mentale, la santé de son podcast. Il faut s'entourer, il faut parler aux gens.
C'est effectivement primordial. Cédric et Sarah, vous travaillez justement à essayer de fédérer les podcasteurs, les podcastrices. Comment ça se passe? Et là, vous avez des petites actualités en plus à nous révéler.
Il y a effectivement deux points. D'un côté, la monétisation, mais je crois qu'il y a une autre slide derrière sur ça. En ce moment, donc c'est un vieux projet qu'on avait en tête de faire une soirée régulière de live d'enregistrement de podcast. Qui a pris un petit peu de temps à voir le jour parce que le Covid et puis l'année après le Covid, c'était pas super simple. Donc l'idée, ça a été vraiment, côté Acast, de se dire on a envie de recréer ce lien entre l'enregistrement live et les auditeurs et les spectateurs et les spectatrices. Et donc on est allé voir Amazon au moment du podcast show, et donc il y a moins de 6 mois, pour en discuter et leur proposer justement de venir avec nous sur ces soirées-là qui s'appellent donc Sur le Podium, qui sont 5 soirées qu'on va lancer donc à l'Apollo Théâtre à partir du 31 octobre, à peu près toutes les 2 semaines, et qui vont donc mettre des podcasteurs et des podcastrices sur scène et leur donner, l'idée c'était vraiment de leur donner cette passerelle un petit peu clé en main, dans une forme de sécurité où ils n'ont pas ni d'argent à avancer, mais et puis une jolie scène, un super théâtre, l'Apollo, c'est 300 places, c'est vraiment assez magnifique, une super scéno et un soutien en termes de visibilité et de communication autour de leur soirée pour les laisser prendre un petit peu, partir en live, quoi.
Oui, pour nous, c'était vraiment évident qu'on en a parlé la première fois il y a 6 mois. On avait à peu près la même idée. Pour nous, c'est vraiment important de connecter les créateurs et les créatrices avec leurs fans, avec leur audience, les audiences existantes, mais aussi de trouver des nouveaux. Et donc, ces projets, c'est le projet qui correspond exactement à ce qu'on souhaite faire au quotidien. Donc, on est ravis de commencer, du coup, cette expérience de live avec Acast et avec tous les créateurs et créatrices à partir du 31 octobre. N'hésitez pas peut-être à jeter un œil. Il y a déjà les deux premières soirées qui sont annoncées. Première soirée avec Pardon GPT et 4K d'heure. Deuxième soirée le 8 novembre avec Shira qui produit le podcast Bip Sonos et une créatrice des contenus qui a annoncé dans ses stories qu'elle ferait la bise à tout le monde. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'intérêt pour cette soirée.
Bah, voir les jeux qui brûlent. Et effectivement, donc trois autres soirées qui vont suivre. Donc sur ces premières soirées, c'est presque sold out, donc n'hésitez pas à vite vous connecter si vous voulez y participer. Et puis voilà, on est super contents, et puis ça amène aussi justement tous ces podcasteurs, créateurs et créatrices, ça leur donne une forme aussi d'ambition, en plus de lancer leur podcast, parce qu'ils ont besoin de remplir leur temps, parce qu'ils ne sont pas encore assez fatigués de faire tout ça. Mais il y a une vraie ambition, une vraie excitation aussi de partir à la rencontre de son public et puis de donner une nouvelle dimension aussi à son podcast. Et tous ces épisodes vont être évidemment enregistrés et rediffusés sur les podcasts quelques jours après, pour aussi partager un peu cette effervescence avec le public qui n'a peut-être pas pu venir sur la première soirée, mais qui viendra sur les saisons 2 et les futurs de Sur le Podium, si tout se passe bien.
Ça donne envie. Et effectivement, je trouve ça assez intéressant aussi de sortir de son studio d'enregistrement et d'aller à la rencontre de son audience. Si vous êtes auteur et autrice de podcast, je ne peux que vous encourager à le faire. Ça fait le plus grand bien. Cédric, tu le disais, il y a un autre enjeu, c'est celui de la monétisation, parce que Lucas l'a dit, l'a répété, lancer un podcast, ça prend du temps. Donc, lancer un podcast, ça prend du temps. Si on ne gagne pas d'argent, c'est un petit peu compliqué. Donc, vous avez un rôle à jouer en tant qu'hébergeur pour accompagner les créateurs et les créatrices dans la monétisation de leurs projets. J'aimerais bien qu'on revienne dessus pour qu'on sache aussi comment est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec nos podcasts.
Absolument. Donc, dans les grands principes, donc Acast, c'est ce que je disais au début, et Régie, on est hébergeur et toute la partie technique est là. Oui, donc c'était plus d'infos sur les soirées podium. Moi, tu peux mettre celle d'après, les gens prendront les infos qu'ils veulent pendant que je parle de monétisation. Donc l'idée, c'est effectivement la monétisation. Ce matin, on est revenu un petit peu en détail sur les formats publicitaires, les spots audio, les sponsoring qui sont vraiment très, très inhérents à l'univers du podcast, tout ce qui peut être communication de marque et ainsi de suite. Acast, la plupart de nos équipes, c'est avant tout des régies, une technologie publicitaire avec des certifications pour mettre en place tout ça, avoir la confiance des annonceurs, des agences. Et donc, c'est comme ça qu'on met en place et qu'on construit ce business model. L'idée, après, étant d'amener toutes ces informations-là et d'éclairer, en plus de la partie édito, sur quand les sortir et éviter les législatives pour avoir de la place pour parler d'écologie, comment est-ce qu'on fait un petit peu de sous avec tout ça ? Et comment est-ce qu'on fait même beaucoup de sous avec tout ça au fur et à mesure? Comment ça prend une place au niveau long terme? Et puis, il y a aussi d'autres axes de monétisation. Ce matin, il y a eu un petit moment de discussion sur une conférence. Elle dit oui, mais du coup, c'est vrai que les plateformes ne donnent pas forcément de l'argent aux créateurs pour leur contenu. Et c'est vrai que chez Acast, on a eu beaucoup de plateformes qui sont venues nous demander des contenus sans publicité. Et donc, à chaque fois, ce qu'on leur disait, c'est oui, donc il faut payer ses créateurs. Et il y en a une qui a accepté de le faire et qui le fait depuis un an. Et c'est Amazon Music, qui, donc depuis, c'est novembre, je crois, donc ça fait 11 mois, en fait, donne de l'argent et donc paye les espaces publicitaires des podcasts qui sont diffusés sur Amazon pour les abonnés premium. Et donc Amazon Music aujourd'hui peut faire profiter les abonnés premium de podcasts sans publicité tout en rémunérant les créateurs pour leur travail en achetant l'intégralité des inventaires publicitaires. Et ça, c'est super important parce que c'est en fait payer les créateurs pour leur travail. Et effectivement, c'est un petit peu la base lorsqu'on exploite ce contenu-là pour le faire connaître aux auditeurs. Et je vais te laisser.
Oui. Donc, du coup, l'idée, juste pour clarifier, qui sont les auditeurs premium. Donc, on a différents types d'abonnements chez Amazon Music. Il y a une offre qui est gratuite. Chaque personne avec un compte sur Amazon.fr peut y accéder et écouter à la fois de la musique, mais aussi des podcasts. Et après, on a deux autres types d'offres. Il y a Amazon Prime qui est du coup aussi disponible pour sur Amazon Music. Donc, les abonnés Prime ont aussi accès à Amazon Music et font partie du coup de ce que tu appelles les abonnés premium, et ainsi que sur Amazon Music Unlimited, donc l'offre payante avec les podcasts et la musique. Donc, ces deux dernières, Amazon Music Prime et Amazon Music Unlimited, peuvent écouter les meilleurs podcasts sans publicité. Ils proviennent du coup du catalogue Acast. Il y a par exemple Hugo Décrypte, Montreux Comedy. Donc, les 60% des top ACPM qu'on a vu tout à l'heure. Donc, un catalogue très riche.
Absolument. Et ce qui est important dans ce partenariat, qui est encore une fois le premier dans l'histoire du podcast à faire ce genre de choses, c'est qu'ils sont systémiques et fondateurs pour financer la création. Et donc, c'est important pour tout le monde, en fait. Important pour les créateurs de podcasts, important de montrer aussi qu'il y a des plateformes qui du coup, s'engagent de façon monétaire très directe et pas sur quelques choix éditoriaux, mais vraiment de dire on va financer tout ce qui va être écouté sur notre plateforme. Et donc, tout ça, c'est des... Comme je disais tout à l'heure, on avance en coulissant et en combinant les forces de chacun. C'est ce genre aussi de partenariat qui se met en place pour le service des créateurs, qui va permettre petit à petit de poser des bases de plus en plus solides pour la création du futur.
Merci à tous les deux. Erwan, tu voulais ajouter quelque chose ?
C'est absolument... oui, c'est essentiel. Il faut payer pour avoir ce contenu. Il faut que les créateurs soient payés. Nous, on n'est pas dans la même position parce que de toute façon, forcément, on paye quand on commande un podcast, que ce soit pour faire une série de LSD, que ce soit pour faire des Odyssées, que ce soit pour n'importe quel podcast. Évidemment, on paye, mais on a poussé cette logique plus loin. C'est-à-dire que auparavant, tous les podcasts de Radio France étaient intégralement disponibles partout. Et puis, il y a quelques années, il y a 4 ans, on a commencé à mettre en place une stratégie de... Alors, ça fait très technique, une stratégie de plateformisation. En gros, on a voulu commencer à dire qu'on ne voulait pas être trop dépendant des autres plateformes et qu'on voulait que beaucoup de choses s'écoutent chez nous. Et notamment, on a commencer à proposer aux autres plateformes de passer des accords ensemble, que c'est pas parce qu'on a des flux RSS que entre guillemets c'est open bar et tout le monde se sert et fait tout ce qu'il veut. Et dans ces accords, il y avait le fait qu'on demande à ceux qui reprennent de se mettre, j'allais dire, en bonne et due forme avec les sociétés, la SACD, les sociétés de droits d'auteur, pour régler les droits d'auteur. Parce que quand on achète un contenu, quand on paye un créateur pour qu'il crée un podcast, il y a ce qu'on achète au départ, et puis il y a les droits d'auteur sur les multidiffusions, les choses comme ça. Et c'est intéressant parce que c'est la première fois, et c'est pas si souvent, qu'un acteur, pour le coup public, mais qu'un acteur français, a pu aller aussi discuter d'égal à égal avec de grandes plateformes internationales, à tel point que, par exemple, Google n'a pas souhaité signer ce contrat. On a dit, vous prenez pas nos podcasts. Et les podcasts de Radio France n'étaient pas disponibles sur feu Google Podcast. Mais c'est bien normal, parce qu'à un moment, on a cette responsabilité-là. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la même philosophie que de se dire... Ne vous laissez pas leurrer par le côté du gratuit et ça va venir après. À un moment ou à un autre, il faut avoir une rémunération qui est prévue et qui n'est pas une cerise sur le gâteau qui va arriver parce que c'est beaucoup, beaucoup de temps de créer un podcast, quelle que soit la forme, quel que soit le partenaire avec lequel vous allez travailler. Et évidemment, comme disait Lucas tout à l'heure, les 10 premiers, on est tout feu, tout flamme, c'est génial, on fait ça en bossant et on y passe ses nuits, ses week-ends. Mais pour que ça marche, il va pas falloir que ça soit les 10 premiers, il va sans doute falloir que ça soit les 30, les 40 premiers. Et là, pour le coup, quand on n'est pas rémunéré, au bout d'un moment, ça fera peut-être un super podcast, mais si c'est pour que le créateur soit à ramasser à la petite cuillère à la fin de la saison et puisse pas continuer, ça serait un peu dommage. Donc il faut qu'il y ait cette partie-là et notamment de s'inscrire à toutes les sociétés de droits d'auteur qui défendent vos droits et qui vous font rémunérer là-dessus. Faites-le, c'est parfois un petit peu fastidieux. Hein, qui a déjà créé son formulaire sur la SACD a une petite idée de l'infini de l'administration française, mais c'est efficace. Donc il faut le faire. Et ça, c'est vraiment du temps investi qu'il faut faire.
Merci. Lucas, est-ce que tu veux nous partager, toi, ton retour d'expérience sur ta stratégie de monétisation ? Alors, très rapidement, pour qu'on puisse ensuite prendre les questions du public.
Alors, très rapidement, j'ai pas fait ce que Cédric m'a dit. J'ai écouté ses conseils pendant toute la première saison. Donc, c'est-à-dire de faire, ce que je disais, un podcast, en fait, un podcast récurrent, etc. Pour justement, créer du volume, parce qu'en fait, au plus on a d'écoute, au plus on a de volume, au plus on délivre d'impression pub, au plus on a de l'argent, évidemment. Donc ça a permis de tenir un temps, mais je suis un auteur têtu et j'en fais qu'à ma tête. Et j'imaginais pas Super Green ni comme ça. Pour moi, c'était vraiment un documentaire que je travaillais en saison, etc. Donc en fait, j'ai changé de stratégie pour la saison 2. Même si c'était une stratégie qui marchait très bien pour la saison 1, je dois le dire. Mais bon, voilà, moi, c'était plus vraiment dans le mood que je voulais faire. Je veux développer d'autres projets, etc. Donc j'ai un peu bifurqué de stratégie. Et donc là, j'ai fait quelque chose qui se fait assez peu, finalement, en podcast. Et surtout pour l'indé, mais en fait, on est allé voir un studio, Studio Fact Audio, pour faire en fait une coproduction avec eux. Et cette coproduction a été rendue possible en fait grâce à deux partenaires qu'on est allé chercher aussi, qui sont l'ADEME, l'Agence de la Transition Écologique, et Maïf. Et donc voilà. Donc en fait, là, on a fait un deal en amont pour lancer la prod, alors que quand on va chez Acast et qu'on fait de la monétisation, on fait le contenu. Et en fait, une fois qu'on fait des écoutes suffisantes, Acast vous contacte pour rentrer des campagnes.
Et après, alors, il y a aussi effectivement des fois des deals qui se font en amont, mais c'est vrai que ça demande un podcast qui est déjà installé, qui puisse aller dans la... Il y a peu d'annonceurs qui payent pour un projet podcast dont ils n'ont aucune idée, ni des écoutes, ni des thématiques, ni du rendu.
Nous, on l'a fait parce que c'était la saison 2. On n'aurait pas pu le faire en saison 1.
Exactement, voilà.
Très clairement.
Tu voulais ajouter quelque chose ?
Je vous ajoute juste un petit truc sur le financement. Le ministère de la Culture relance son aide au podcast. Mine de rien, c'est des aides qui peuvent aller jusqu'à, si je ne m'abuse, 5000 euros. On n'en vit pas, mais quand il s'agit de lancer un projet, ça aide quand même pas mal. Là aussi, vous aurez une petite idée de l'infini d'un formulaire de l'administration. Mais ce n'est pas du temps perdu, parce qu'il y en a quand même un nombre non négligeable qui sont lauréats de cette aide. Donc n'hésitez pas.
Très bon conseil. Et pour finir, alors Erwan, on va considérer que c'était ton conseil, comme ça, hop, on gagne un petit peu de temps. Est-ce que vous auriez chacun un conseil à partager aux créateurs et créatrices de contenu qui sont dans la salle ? J'ai vu le panneau.
Ça rejoint un peu ce qu'on s'est tous dit, c'est vraiment d'aller s'inspirer d'autres personnes, d'aller s'ouvrir en fait, de pas rester dans son microcosme, mais au contraire d'aller se connecter aux autres, parce que c'est ça qui permet de réfléchir et d'avancer, de progresser. Donc moi je dirais aller rentrer dans des collectifs. Petit clin d'œil à Women at Podcast. Donc voilà.
Mais du début à la fin, d'en parler autour de soi, que ce soit au moment de l'idée, de la création un petit peu du podcast, jusqu'au moment où chaque épisode, il faut aller en parler autour de soi pour que ça marche. Donc vraiment de la création au marketing, en parler, le porter un petit peu sur sa tête, comme le dit souvent Pénélope Boeuf, mais ce qui est très vrai. Et surtout, effectivement, de faire ce qu'il faut pour que son contenu soit bien. C'est-à-dire qu'in fine, un podcast, ça marche parce qu'il y a une ligne édito, il y a un contenu dont on est fier, un contenu qui marque, un contenu qui marche, et de prendre aussi, du coup, les retours bons et critiques pour tout le temps essayer au max d'améliorer son contenu, puisque c'est par là que ça se passe. Tout se passe au niveau du contenu sur le podcast, comme sur tous les autres médias, d'ailleurs.
Oui. Peut-être pour rebondir sur ton premier conseil, donc en parler, c'est en parler à tous les mondes, à vos amis, sur vos réseaux sociaux, mais bien sûr aussi à tous les services de distribution comme Amazon Music. On est hyper ravis d'avoir vos nouvelles, de vos recommandations et juste de vous connaître et avoir la possibilité de découvrir vos projets.
Lucas.
En plus de tout ce qu'il a dit, est-ce que je le répète, faire du stock. Faites du stock avant de le lancer. Et comme ça, vous pourrez tenir sur le temps long.
Merci à tous les cinq. Je vous propose... Ah, tu voulais ajouter quelque chose, Erwan ?
Allez, tout petit, pardon. Écoutez votre podcast dans les conditions où il sera écouté. Ne l'écoutez pas chez vous au casque, dans votre canapé, dans un silence religieux, parce que c'est pas comme ça que les gens vont l'écouter. Et le nombre de podcasts que moi je reçois qui sont super comme ça, mais quand je les écoute dans le métro, pour le coup, c'est dans le métro que je les écoute, mes podcasts, quand je repars chez moi ou dans le train, et qui sont pas inaudibles, mais qui sont très compliqués, parce que c'est super de chuchoter. mais avec un métro autour, je vous ai perdu. Si je vous ai perdu 5 minutes, il y a peu de chances que je revienne. Je vais sans doute être passé à autre chose.
Merci beaucoup à tous les 5. On a encore un petit peu de temps pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, juste ici.
Bonjour, Médina Koné. Je m'interroge à tout le monde, en fait, à vous tous. Vous nous avez beaucoup parlé des podcasts, de la création, et c'est super, on a beaucoup appris. Et côté audience publique, qu'en est-il? À quoi ressemble votre auditeur type, celui qui est vraiment accro? Parce que je sais qu'il y a plein de types de podcasts, mais c'est vraiment intéressant de voir à quoi ressemblent ceux qui vous écoutent, ceux qui écoutent en tout cas les podcasts. Voilà.
Il y a quasiment autant d'audience type qu'il y a de podcasts. Hein. On va pas se mentir. C'est qu'on dit souvent que l'audience type, c'est des gens qui sont dans des centres urbains et qui, du coup, sont très consommateurs de médias. C'est grosso modo vrai. Nous, ce qu'on voit à côté Acast, c'est que 40% des écoutes sont faites, par exemple, en Paris, Île-de-France. Donc, il y a quand même une forme de concentration ici. Que 30% des écoutes sont faites dans les agglos de 100 000 habitants. Et puis finalement, que 30% des écoutes sont faites aussi dans les villes de moins de 100 000 habitants. Qu'il y a vraiment une forme de couverture du territoire français. Et que du coup, les âges les plus bas pour écouter du podcast, c'est 5 ans si on prend des podcasts jeunesse. Mais les gens qui commencent à s'y mettre de façon régulière, ça commence à 15 ans, ça se termine à 60. Donc en fait, finalement, l'auditeur de podcast, il ressemble beaucoup au contenu que vous allez pousser en podcast. Et des podcasts business attirent rarement des ados lifestyle. Et des podcasts lifestyle attirent rarement des entrepreneurs de start-up qui cherchent des conseils pour faire leur rentrée en bourse.
Merci Cédric. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui.
Merci beaucoup pour ces informations. J'ai une question pour Radio France. Comment vous faites avec tout le contenu que vous recevez pour ne pas avoir en fait de concurrence entre ce que vous proposez? Typiquement, moi, je sais que je suis une vieille auditrice des Pieds sur Terre.
Et quand on a regardé le catalogue des Pieds sur Terre, il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'idées qui ne soient pas d'une façon ou d'une autre déjà passées. Oui. C'est extrêmement compliqué. C'est évidemment un des premiers critères quand on reçoit quelque chose, c'est qu'on essaye de se dire personne ne connaît intégralement le catalogue de Radio France. C'est tellement énorme qu'on peut pas. Par contre, on a quand même quelques personnes qui le connaissent bien. On vérifie et très très souvent, on a déjà on a fait un pied sur terre. Alors c'est pas parce que le sujet a déjà été traité qu'on l'écarte, parce qu'il y a 10 façons de traiter un sujet. Mais c'est vrai que c'est quand même un critère, ne serait-ce que parce que justement, si on veut essayer d'avoir une offre la plus large possible, il faut pas trop se répéter. En revanche, quand on est dans le cadre, j'allais dire, d'un projet très précis, enfin d'un appel à projet, parce que je vous ai parlé de podcasting, mais on a plein d'appels à projet. France Culture en fait régulièrement, France Inter aussi. Quand on est dans le cadre, il est très clair que le projet envoyé ne peut absolument, évidemment, pas être utilisé après. Mais de toute façon, on le fait pas parce que ça dépend tellement du porteur. On voit tellement passer de choses comme ça. Nous, on a plutôt le problème d'avoir trop de propositions et de réussir à sélectionner celle qui va toucher au bon moment, qui va être bien complémentaire de tout ce qu'on est. Donc en fait, nous, on n'a pas trop intérêt. On a plutôt intérêt à dire, et c'est ce qu'on fait généralement, on a l'impression qu'on a déjà tellement tourné autour de ce sujet-là que c'est pas ça qu'on veut faire. Ou alors, et c'est ce qui arrive le plus souvent, oui, ça nous intéresse potentiellement, mais c'est pas le bon moment. On parlait des moments, hein, c'est hyper important. C'est pas le bon moment parce qu'on sait que sur les 9 mois qui viennent, on va produire des choses qui sont pas très très loin, ou parce qu'on a aussi un calendrier éditorial. Hein. Nous, par exemple, je peux vous dire que l'année prochaine, il va y avoir beaucoup de choses passionnantes autour du fait que c'est un anniversaire de 1944. 2024, et ça va pas être du truc un peu poussiéreux. C'est que entre ce qui s'est passé en 44 et ce qu'on vit encore aujourd'hui, les ponts sont tellement évidents, la façon de remodeler le monde a tellement été des conséquences de ça qu'on va aller sur plein de choses. Mais ça, nous, on connaît notre calendrier au moins 8-9 mois, voire un an à l'avance. Et grâce au podcast, pour la première fois, je peux même vous dire que je connais des podcasts qui vont passer sur l'été 2025 de certaines de nos antennes, ce qui ne nous était jamais arrivé. Mais pour le coup, Dans ce cas-là, on va plutôt dire aux créateurs, enfin à ceux qui nous proposent des podcasts, recontactez-nous dans quelques mois, dans un an, parce que pour l'instant, c'est pas ça, mais ça vaudra le coup d'y revenir. Mais c'est vrai que quand on regarde, quand vous prenez LSD, les pieds sur terre ou des choses comme ça, ils en ont fait des sujets. Et on en découvre encore. Il y a des fois où on part sur des sujets et c'est après qu'on quelqu'un nous rattrape dans la maison en disant « mais on a fait un LSD entier, donc 4 épisodes d'une heure ». Ouais, c'est vrai que 4 épisodes d'une heure, on a normalement à peu près quand même bien traité le sujet.
Merci beaucoup. Je vous propose de poursuivre la discussion au sein du Foyer Moderne, où se déroulera l'apéro des créateurs et créatrices en partenariat avec Amazon Music. Merci pour votre attention et bonne soirée.